Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Il y a les mots qui font mal, ces mots qui égratignent, blessent, heurtent, balafrent, abîment et parfois tuent, des mots sales proférés en ce moment sur les réseaux sociaux par des néo-fascistes à l'encontre de Liliana Segre, rescapée italienne du camp d'Auschwitz-Birkenau, une sénatrice de 89 ans menacée de mort, son crime, sa volonté de créer une commission de lutte contre la haine. La tumeur des mots sales qui forment le cancer de la haine qui, en se métastasant dans l'espace public, peuvent tuer une société. Mais je vous rassure, point de haine et de mots sales ce matin, mais un festin de mots qui met en joie autour de la table des convives érudits et pas pédants pour un sou. Le grand lexicographe Alain Rey, l'écrivain Daniel Percheron et l'avocat Bertrand Perrier, racontez-nous vos mots préférés, ceux qui vous font du bien, ces mots évocateurs qui enflamment votre imagination, ces mots que vous aimez prononcer juste pour le plaisir de leur sonorité. Ces mots gorgés de sens que vous aimez vous répéter comme un mantra bienfaisant, ces mots que vous aimez lire pour la beauté de leur morphologie, des images qu'ils convoquent. Le standard est ouvert au 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous écrire sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
Il n'y a pas que le mot blanquette dans la vie.
Non, absolument.
C'est la reine de la blanquette, hein, faut
oui,
le dire.
Oui, et vous venez d'ailleurs d'en témoigner avec beaucoup de brio, très cher. C'était très beau ce que vous avez.
Merci.
Dit à l'instant.
Et on retrouve évidemment votre esprit d'escalier tout au long de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Et une musique triomphale pour accueillir le dieu vivant des lexicographes, le king du lexique et de la langue française pour Alice des Yvelines qui nous a écrit ce matin. Bonjour Alain Rey.
Bonjour.
Je suis ravi de vous recevoir à nouveau. Ça fait quoi d'être un trésor national vivant ?
Ça fait rien du tout. C'est un mot, alors là, bon, c'est un mot qu'on peut aimer se répéter à soi-même en se regardant dans la glace, mais ça ne fait pas un effet particulier. Les trésors nationaux vivants, j'en ai vu d'assez près au Japon, parce qu'au Japon, c'est officiel. Eh ben, c'est pas très rigolo, parce que ils sont l'objet d'un culte un peu ridicule, ils sont un peu forcés d'être en représentation toute leur vie, donc je me détrésorise le plus possible.
Alors, vous êtes le rédacteur en chef des publications des éditions Le Robert, les auditeurs de France Inter se souviennent de vos formidables chroniques matinales, et vous proposez en poche une nouvelle édition enrichie du dictionnaire historique de la langue française. Alors à 91 ans, vous continuez à suivre et à compter la croissance de l'arbre des mots, du cœur à l'écorce, pour reprendre vos mots Alain Rey.
Oui, parce que si vous voulez, le langage, on peut avoir beaucoup de métaphores. J'aime bien cette métaphore qui consiste à dire que quand on se promène dans le vocabulaire d'une langue séculaire, comme l'est le français, on est un peu comme un voyageur qui traverse une grande ville qu'il ignore et qui va y voir des quantités de choses étranges, des vieux palais désaffectés, des rues pleines de monde, des endroits totalement déserts. Et c'est comme ça un peu dans le vocabulaire, parce que nous avons un stock de mots absolument considérable qui s'est développé sur plus de 1000 ans et qui plonge dans le passé sur beaucoup plus de millénaires, puisque ça remonte pour les mots du latin jusqu'à des racines indo-européennes, très souvent. Et ça, j'essaye bien de le faire ressortir dans le bouquin, parce que j'étais un peu frustré quand je voyais que les dictionnaires étymologiques, d'habitude, s'arrêtaient au mot d'où vient le mot français. Ça vient du latin, machin, ça vient du grec, toc. C'est pas suffisant. Il faut savoir si le mot latin est autochtone, s'il vient de loin, s'il remonte jusqu'aux Australopithèques.
Et hop, il l'a placé.
Bravo.
L'idée de ce dictionnaire historique de la langue française, c'est de mettre en lumière un immense patrimoine émotionnel et spirituel. Émotionnel et spirituel.
Oui, je veux bien. Les adjectifs me paraissent saillants, mais Pas seulement. Il y a un patrimoine rationnel, un patrimoine scientifique, un patrimoine juridique, un patrimoine littéraire. Je n'en finirai pas d'énumérer, parce que les langues ont plus ou moins de chance. Elles ont la même valeur intrinsèque toutes, les unes et les autres. Beaucoup sont en train de disparaître, ce qui est une catastrophe. C'est comme des espèces animales, on les a maltraitées. Mais le fait qu'une langue ait un stock de mots derrière elle, c'est plus ou moins important suivant les chances historiques que la langue a eues et suivant la façon dont on s'en est servi pour la célébrer. Or, pour le français, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de langues qui peuvent prétendre être plus bien célébrée qu'elle, parce que la littérature française n'a jamais arrêté. Depuis la chanson de Roland jusqu'à nos jours, tous les ans, il y a des choses magnifiques qui se publient. En outre, c'est le monde entier maintenant qui contribue, puisqu'il y a de la francophonie dans la zone Caraïbe, au Canada, en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti. Et partout là, il y a des gens qui parlent, qui racontent leur culture, et souvent d'une manière magnifique et poétique. Un des grands poètes français, à mon avis, vivant actuellement, c'est un Libanais, c'est Salah Stétié.
Dans la préface de 1992, vous remerciez les mots les plus modestes, les plus humbles de la langue française.
Les plus modestes et les plus humbles, j'ajouterais les plus emmerdants pour moi, parce que ce sont généralement des mots qui sont extrêmement usités, qui sont souvent brefs, et qui ont une histoire très très chargée, et qui sont très difficiles à démêler. C'est curieusement, les mots les plus sympathiques sont parfois pleins de pièges, et je peux vous dire qu'à avoir rédigé beaucoup de dictionnaires, deux des mots parmi les pires que j'ai jamais rencontrés, c'est « jeu » et « jouer ». C'est épouvantablement compliqué, parce que le jeu, il faut que vous puissiez subsumer en même temps, ce qui est tout à fait bizarre, la gratuité des jeux, pas seulement des humains, mais aussi des animaux, et aussi l'appât du gain, parce que le joueur de Dostoïevski, c'est pas particulièrement joyeux. Donc, si vous voulez, ces mots-là sont remplis de possibilités qui ont été souvent révélées par des grands écrivains. Et pour en faire la synthèse, c'est extrêmement difficile. Or, cette synthèse, elle se fait spontanément dans nos petits cerveaux, qui sont tout de même beaucoup plus intéressants que les ordinateurs, parce que non seulement ils ordonnent comme les ordinateurs, et ils désordonnent en même temps, mais en même temps, ils sont capables justement d'avoir des sentiments, d'avoir des émotions, et de les transmettre.
Alors, je vous ai demandé de choisir quelques mots et vous avez prélevé dans votre dictionnaire historique de la langue française Schmilblick.
Oui, j'adore le Schmilblick. C'est une invention cocasse et d'apparence germanique, mais d'apparence seulement, de Pierre Dac. Et j'ai une certaine admiration pour ce monsieur qui avait un comique d'absurde qui est vraiment au sommet à la fois de la simplicité et de la drôlerie.
Et c'est entré dans le langage courant, faire avancer le Schmilblick.
Voilà, c'est l'exemple que donne naturellement le dictionnaire.
Bonjour Bertrand Perrier.
Bonjour.
Vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, spécialiste de l'art oratoire, et vous publiez chez La Thèse, sur le bout de la langue, le plaisir du mot juste. Nous avons perdu le goût du mot juste. Et quels sont les risques de cette perte de précision ?
Non, on n'a pas perdu le goût, on a souvent un peu perdu la pratique du mot juste, un peu par paresse, par habitude de langage. On se restreint à peu près 10% de notre lexique, puisque vous savez que la langue française correspond comprend environ 60 000 mots. Alors il y a des débats de lexicographes et c'est pas devant à l'arrêt que je vais m'avancer là-dessus, mais à peu près 60 000 et on en utilise à peine 10% parce qu'on est cantonné par le premier mot qui vient. On se dit bon bah allez, je vais dire je ne sais pas, être, avoir, faire, mettre et dire, alors que pour tous ces verbes-là, inévitablement il y a un mot plus joli, plus précis, plus juste, peut-être un peu plus rare, plus original, en tout cas plus savoureux, et c'est là-dessus, dans cette partie immergé de l'iceberg qu'il faut aller chercher.
Alain Rey, on a perdu la pratique du mot juste.
On a perdu beaucoup de pratiques et on en a gagné, on en a gagné d'autres. Vous savez, il ne faut pas... le mot juste, c'est facile à dire, c'est difficile à obtenir. De même que le mot « mis en sa place », d'en parler Boileau, c'est une chose très très difficile à obtenir, parce que devant la multiplicité des possibilités que représente cet énorme vocabulaire qui est le vocabulaire français, le nombre de mots qu'il y a dans un dictionnaire n'est que la partie très visible d'un iceberg qui est bien plus profond. Je rappellerai par exemple que pour un entomologiste, il y a 4000 mots pour désigner les 4000 espèces de fourmis qui ont été répertoriées. Alors vous voyez bien que si on généralise une remarque comme celle-là, ça va pas être 60 000 ou 70 000 comme il y en a dans les dictionnaires, mais ça va être des millions. Et il y a des mots nouveaux qui se présentent, parce que nous suivons, et bien sûr au Robert, la croissance de ce fameux arbre et les feuilles nouvelles qui poussent tous les ans. Ce sont des milliers de mots nouveaux qui sont proposés et qu'on peut trouver dans les médias, dans la presse ou en entendant parler les gens dans la rue. Évidemment, on sélectionne parce qu'il faut qu'il y ait une certaine constance dans l'emploi. Il y a des mots qui viennent et qui disparaissent très rapidement. On peut pas intégrer tous les vocabulaires de spécialité. Et quand je dis spécialité, ça va jusqu'à la famille et jusqu'à l'individu. Nous avons tous nos mots favoris et parfois ils sont inventés.
Bonjour Daniel Percheron.
Oui, bonjour.
Vous avez été l'assistant de Roland Barthes au Centre d'études de sémiologie, anthropologie, sociologie. Vous avez été le secrétaire de rédaction de la revue Communication et vous publiez Le bruit des mots aux éditions Le Passage, la suite de Bruit de langue que notre ami Éric Libiu avait encensé ici à ce micro. Vous trouvez également qu'on a perdu, qu'on perd la pratique du mot juste ?
Ben, peut-être, ouais, j'ai cru comprendre. Mais peut-être que de temps en temps, on court quand même après le... Je pensais à un poète là que croisait de temps en temps Luis Buñuel à Madrid et qui cherchait il cherchait désespérément l'adjectif qui allait et vraiment le ravir et tout, et parfois il courait longtemps, quoi, ça prenait des semaines.
Alors vous êtes davantage vous séduit par la musique des mots ou par les images que ces mots convoquent? Vous êtes plutôt musicien ou peintre en la matière?
Bah, les deux, mon capitaine.
Merci d'être venu.
Non, mais c'est vrai que, par exemple, une fois, j'étais dans le bus, je traversais la Seine, je sais pas, j'ai pensé au mot vestibule, qui m'a complètement emballé,
comme ça.
Ouais, comme ça. De séduction, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il m'est revenu, là.
Il y a un mot qui vous est cher, que vous aimez prononcer. C'est immarcessible.
Oui, alors immarcessible, c'est une petite histoire. C'était un ami, enfin, comment dire, un ami de longue date là, mais qui se jurait toujours de le placer, d'arriver à le placer dans la conversation. Et un jour, j'en ai parlé à un autre ami qui travaillait à Libération. Et donc, je l'ai mis un peu au défi. Je lui ai dit, écoute, essaye de le caser et tout ça. Et donc, il a réussi à le caser une fois dans un article, mais il a été sucré par un correcteur parce qu'il a dû trouver que c'était un peu trop savant. Donc, le immarcessible s'est envolé.
Et dans le dictionnaire historique de la langue française, immarcessible remonte à 1482. C'est un emprunt au latin immarcessibilis et qui signifie qu'il ne se flétrit pas.
Voilà, qu'il ne peut se flétrir.
Alain Ré, ça va, je me suis pas trompé.
Non, si vous lisez mon dictionnaire, vous ne vous trompez pas.
Bertrand Perrier.
Vous savez que ce que vous évoquez à l'instant, c'est-à-dire l'obligation de caser un mot, c'est le bizutage des avocats. Ouais, c'est-à-dire que quand vous faites votre première plaidoirie, vos confrères vous font passer un petit mot, ou le président du tribunal lui-même vous fait passer un petit mot au début de votre plaidoirie, et vous, tremblant et chancelant, vous ouvrez le papier, et là vous voyez ornithorynque, hippocampe, et vous vous dites, je suis dans une affaire d'abus de biens sociaux, l'hippocampe est assez lointain, mais il va forcément revenir à un moment, et là c'est un grand moment de solitude, et je me souviens de ce moment moi-même.
Guillemette Odissino.
Ah ben, je vais balancer. Je vais le dire, parce que maintenant on le fait plus, parce que comme Éric Libiot, comme Montic de Tic et Tac, ou Montac, je sais pas, et ne fait plus les émissions au même moment que moi. Toute l'année dernière, l'équipe de Grand Bien Vous Fasse nous forçait, Eric et moi, à mettre des mots dans nos chroniques. Et alors, on avait des ornithorynques hein, aussi. Hein. Et je peux vous dire que de temps en temps, c'était effectivement très, très loin des sujets qu'on abordait. Mais c'était un plaisir. C'était un plaisir. C'était Alexia Rivière qui nous envoyait à 5 minutes avant l'émission par texto le mot, le découvrir. étaient effectivement...
S'en délecter.
Oui, on s'en délectait d'abord, on avait la trouille après, et après on en bavait pour le placer, et on était punis si on n'arrivait pas à le placer.
Ouais.
On devait offrir le café en plus.
Je crois que l'angoisse devant ces mots bizarres, elle vient du fait qu'on les emploie seuls, mais il suffit de les mettre dans un contexte et ils deviennent beaucoup plus sympathiques. Par exemple, si j'offre un bouquet immarcessible à une dame, avec des fleurs artificielles par exemple...
C'est quand même plutôt le début de la fin. Là.
Oui, mais c'est assez rigolo.
C'est le contraire, les fleurs c'est périssable.
Quels sont vos mots préférés? Quels sont ceux qui vous rebutent? Paradis nous dit « Mon mot préféré de la langue française est candélabre. Je trouve ce mot élégant ainsi que l'objet qu'il désigne. J'aime aussi la cavalcade. Voilà. En revanche, j'exècre le gap, GAP, utilisé hier par l'un de nos invités. Allez, dites-nous tout au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière, Claire Destacan et Julia Macarès m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Et je vous propose d'écouter un titre de 1983. Cette année-là sortait Zelig de Woody Allen et le romancier Frédéric Tristan recevait le Goncourt pour Les Égarés. Je sais pas si vous l'avez lu, Guillemette, vous? Non, moi non.
Non, je confesse, non.
Belle journée à l'écoute.
C'est pas sympa, ça.
Belle journée à l'écoute de France Inter. Qu'est-ce que c'est bon, David Bowie, Modern Love?
Ouais, non, mais voilà, après, bon...
Grand bien vous fasse.
D'accord, mais personnellement, c'est vrai que, bon, mais clairement, ouais.
Ali Rebéi.
Qui peut le moins, peut le plus.
Ah, va savoir. Allez, qu'à cela ne tienne. Ma foi, c'est la vie.
Sur France Inter.
10h26, plaisir des mots ce matin. Quels sont les mots que vous aimez pour leur sens ou pour leur sonorité? Quels sont ceux qui vous enchantent? Dites-nous tout au 01 45 24 7000.
Amour, parce que ça sonne bien.
La langue de la chanson, depuis les troubadours. Brassens, Ferret, Brel, Souchon.
Les sons sont agréables en français.
C'est important de dire le mot juste par rapport à ce qu'on ressent, trouver le mot juste qui peut apaiser.
Con, parce que je trouve que c'est con.
Pour être précis, pour se faire comprendre. Et du coup, pouvoir s'intégrer à la société.
La gentillesse est un mot qui a double sens. Bien souvent, on dit « oh, elle est gentille », l'air de dire « elle est un peu niaise », alors que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement profond, la gentillesse.
Pour pas blesser, pour pas dire quelque chose qu'on ne voulait pas dire.
T'es beau ou t'es sympa ou t'es mignon, c'est toujours gentil.
Propos recueillis dans les rues de Paris cette semaine, et avec nous le lexicographe Alain Rey, l'avocat Bertrand Perrier, l'écrivain Daniel Percheron, évidemment notre camarade Guillemette Audicino. Bienvenue Régine.
Oui, bonjour.
Quel est votre mot préféré, chère Régine?
Alors, mon mot préféré, c'est chiquenaude.
Ah, pourquoi?
Parce que c'est un mot en quatre syllabes, dont une muette. Ce sont les mots que j'affectionne particulièrement. Mais aussi pour la musicalité de ce mot, je trouve qu'il sonne bien. Et puis, d'autre part, j'aime beaucoup... Vous savez, je disais à votre opératrice tout à l'heure, si le monde s'invectivait à coups de chiquenaude, c'est-à-dire que ces tout petits gestes-là, un petit peu sympathiques, du pouce et de l'index, et de ma foi, tout irait beaucoup mieux, avec le petit sourire qui accompagne le mot. Voilà.
Et chiquenaude, alors je puise ça dans le dictionnaire historique de la langue française dans l'Inré. Chiquenaude, ça s'écrivait avec un O à l'origine, c'est un mot qui remonte à 1530. Chiquenaude a eu remonte à 1532, et je parle sous le contrôle d'Alain Rey, l'origine est incertaine, peut-être dérivée avec sa finale de baguenaude, c'est ça Alain Rey?
Oui, en changeant le début du mot.
Mm-hmm. Bon. Est-ce que vous arrivez à l'utiliser au quotidien, chiquenaude, Régine?
Au quotidien, non, certainement pas. Mais c'est vrai que j'y pense, c'est un petit mot sympathique, je l'aime beaucoup.
Voilà. Merci beaucoup Régine d'avoir appelé. Bienvenue Françoise.
Merci, félicitations. À Alain Rey aussi, que j'apprécie très particulièrement.
Merci Régine.
Merci pour son travail sur la langue.
Bienvenue Françoise.
Oui, bonjour.
Alors, quel est votre mot préféré?
Enchifrené.
Ah. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est un mot de saison, vous voyez ce que je veux dire.
C'est
un mot extraordinaire, dont la musicalité fait réellement penser à sa réalité.
Et ça veut dire quoi, enchifriné? Enchifrené. Enchifrené.
Ça veut dire enrhumé.
Oui, enfin, c'est plus que ça.
Alain Rey, c'est plus que ça, en chiffronné?
Oui, enfin, ça veut dire que la voix est complètement abîmée, un peu comme la mienne en ce moment, mais c'est juste par un petit début de rhume. Et c'est vrai que la musicalité, je remarque que les mots favoris sont souvent des mots assez longs, hein, trois, quatre syllabes, parce que on a beaucoup plus de mal à se mobiliser pour un mot monosyllabique, alors que ce sont les mots les plus courants. Mais voilà, il nous faut une petite musique intérieure, et c'est le genre de musique que des langues comme l'arabe ou l'hébreu, qui sont des langues à système de consonnes, mobilisent beaucoup mieux. Vous voyez, chi, que, non, che, que, ne. C'est la carcasse consonantique qui fait un peu la qualité du mot. Après, on bourre des voyelles à l'intérieur. ça n'est pas le système français, mais c'est le système des langues sémitiques. C'est comme ça que ça marche.
Et enchifrené remonte probablement à 1275-1280. Merci beaucoup, Françoise, de nous avoir appelé. Tiens, Daniel Percheron, un mot qui vous est cher, c'est rudéral. Ouais. Rudéral. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
C'était un exemple que citait André Martinet quand il était à la Sorbonne et que j'étais un petit étudiant. Et donc, il avait trouvé ce mot parce que il trouvait que ça revenait pas beaucoup sur le tapis, quoi. Mm-hmm. Et ça veut dire très précisément qu'il croit parmi les décombres. Il avait mis en pour contrebalancer, il disait par exemple le mot ami revient beaucoup plus souvent évidemment dans la conversation. Et donc je fais marcher un peu les deux, je pense toujours à rudéral avec ami, et donc voilà.
Ami rudéral.
Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, rudéral tout seul, c'est un peu mystérieux, mais si on parle de plante rudérale, voilà, déjà on a un petit peu l'idée.
Mais en plus on voit tout de suite la fleur au milieu des décombres,
voilà,
la dernière pâquerette qui survie, c'est magnifique. Ouais.
Ouais. Il y a un blocos, c'est à Saint-Pierre-en-Port, voilà. Donc qui est un peu amoché et tout ça, et donc on voit bien pousser la végétation ruderale.
Bertrand Perrier, c'est une délectation de choisir le mot le plus adapté, le plus exact. La langue française, pour vous, possède trop de richesses pour que l'on se contente d'approximations d'à peu près.
Oui, bien sûr, et parce que le lexique permet aussi l'expression de la pensée. Pour moi, c'est ça l'essentiel. C'est pas forcément le mot pour le mot, c'est le mot pour ce qu'il exprime de pensée. Et plus on a à sa disposition un lexique large, plus on peut exprimer une pensée fine et précise. Et puisque Régine aimait les mots à quatre syllabes avec des E muets, bon, en tant qu'avocat, il y en a un que j'aime particulièrement, c'est acquittement. Je veux dire que vous êtes innocenté par une cour d'assises.
Guillemette Odissino.
Mais évidemment, les mots sont faits pour traduire la pensée, mais est-ce que quand on finit par trop se priver de mots, quand le vocabulaire se restreint, se réduit, ou quand on ne cherche pas le mot juste un peu par paresse, est-ce que la pensée aussi finit par se réduire?
Mais la pensée devient paresseuse avec les mots, puisque le rétrécissement du lexique fait le rétrécissement de la pensée, et la paresse du langage peut aussi être soit le symptôme, soit le révélateur de la fadissement de la pensée. C'est-à-dire, on pense conforme parce qu'on parle conforme. Et à la fin d'un mail, on dit cordialement. Mmh. Et là, on est dans le début de l'horreur, quoi.
Bon, je vais arrêter de finir mes mails avec très cordialement ou bien cordialement.
Bien à vous.
Non, mais tout le monde le fait. Le monde se divise en deux, cordialement et bien à vous. Mais tout le monde le fait. Mais délivrer à une dame ses hommages choisis, c'est pas interdit non plus.
Alain Ray.
Cordialement, c'est finalement un anglicisme.
En plus.
C'est parce que les Anglais avaient pris l'habitude de conclure leurs lettres de cette manière. Mais en soi, cordial, c'est tout de même un très beau mot, parce que c'est le cœur. Hein. Bon,
moi, j'ai jamais utilisé cordial salut que le regretté philosophe Jean Salem m'adressait. Cordial salut.
Oui, voilà. Et un cordial, c'est pas aussi une boisson?
Si. C'est, mais
la nana qui parle d'alcool tout le temps. Non, mais c'est...
Qui
mais
remonte c'est le moral. Mais...
Oui, un cordial, c'est, on vous offre un cordial pour vous réchauffer, par exemple, quand vous êtes enchifronné.
Ce que je voulais dire, c'est que il y avait une façon de terminer une lettre. C'était celle de Blaise Cendrars. Il mettait ma main amie. Malheureusement, il avait perdu une de ses mains. Donc on se demandait toujours.
Daniel Percheron, vous faites la chasse aux mots fourre-tout, imprécis. Et j'ai puisé dans l'un de vos livres le mot hallucinant, qui jouit d'un grand succès. Bah, vous agace un peu ce mot hallucinant.
J'ai l'impression qu'il s'est un peu usé là, quand même au fil des années là.
Oui.
Mais on aime bien un peu. J'avais une amie là qui était hallucinant. Elle en faisait trois des gels là.
Oui, ça marche mieux que étonnant, qui est quand même un peu, alors que étonnant est un mot très très fort au départ.
Oui, c'est vrai.
C'est tonnerre, bon.
Justement cette mode du superlatif, c'est-à-dire on marque dire étonnant, c'est pas suffisant, faut dire hallucinant. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette surenchère? Comme si les mots n'avaient plus suffisamment de valeur, fallait en trouver encore plus fort.
On ne peut pas parler des mots si on oublie que ce sont des êtres bifaces, des Janus, bifronces, parce que d'un côté, il y a la musique qu'ils transmettent, qui est extrêmement importante, et dans le choix des mots, c'est souvent ça qui prime, et de l'autre côté, il y a la signification, dont les avocats parlent si bien, parce qu'il faut signifier essentiellement. Or, on est obligé de signifier, mais alors là, on entre dans un domaine qui est extrêmement périlleux, parce que quand on dit 60 000 mots en français, que nous ne maîtrisons pas, mais qui sont à notre disposition, c'est plus de 600 000 acceptions, significations. Il faut compter les unités de traduction dans un dictionnaire bilingue, et on a une idée beaucoup plus juste de ce qu'est le contenu d'un vocabulaire, qui est énorme, absolument immense. Il y a des mots qui ont 40 significations et qui changent de signification suivant le domaine où on est, une technique, une autre technique, ça n'est plus la même chose, et ainsi de suite. C'est d'une richesse absolue. La chiquenaude, dont il était question tout à l'heure, personne ne pense plus, sauf les érudits, que c'est un petit geste de qu'on envoie sur le nez de la personne avec un doigt comme ça. Mais du coup, c'est quelque chose de petit, d'un petit peu agressif, mais gentiment. Et c'est vrai que c'est assez fascinant quand on voit la multiplicité. Et en plus, chequeneux, à nouveau, vous voyez, ça, il y a quelque chose, une musique qui se déclenche. Donc ce sont les deux aspects du mot. Moi, je donnais parmi mes mots favoris paparazzi. C'est pas parce que j'aime les paparazzi, c'est parce que je trouve que c'est un italianisme épatant, qu'en plus son histoire est très amusante. C'est un nom propre qu'on trouve dans un roman italien des années 36 et qui a été repris par Fellini pour un film célébrissime. Et à ce moment-là, c'est devenu un mot mondial.
Il y a évidemment dans les mots une variation entre le son et le sens. Il y a un rapport très intime entre les deux. Je pense à un mot susurré, par exemple. Au-delà du fait qu'on ne sait jamais s'il y a un S, deux S, un R, deux M. Ça, c'est le drame de la dictée. Mais indépendamment de ça, susurré, ça veut bien dire ce que ça veut dire entre le mot et le sens. Un autre, gouléant. Gouléant, on sent le côté capiteux, volubile. On voit, il y a vraiment le son est révélateur du sens.
C'est assez vineux, gouléant.
Oui, c'est ça. Il y a le syrah, grenache, tout ça, c'est magnifique.
Un de mes mots préférés, c'est épatant. Vous l'avez cité. Épatant.
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 Épatant, c'est joli. Mais au départ, c'est pas tellement sympathique. Hein. C'est le fait d'écraser son nez sur quelque chose.
c'est passionnant, les glissements de sens.
Ah, mais c'est justement, on en parlait tout à l'heure. Je trouve qu'à l'intérieur des mots, c'est ça qui se passe. Il y a des évolutions incroyables. Tout à l'heure, il était question de gentillesse avec cette ambiguïté qui fait que gentil, c'est positif, mais c'est un peu négatif. Mais au Moyen-Âge, c'était entièrement positif et c'était extraordinairement important. L'adjectif gentil est un des mots clés pour comprendre la civilisation du XIIe siècle.
Le gentilhomme. Le gentilhomme, ça, c'est pas un crétin, que je sache pas.
Pas du tout. C'est pas un homme gentil. Et le mot s'est un peu modifié. Tout à l'heure, vous parliez de formidable au sens normal aujourd'hui, c'est-à-dire très positif. Mais formidable, ça veut dire terrifiant. Et on voit le glissement de sens qui est extraordinaire. Par exemple, chez Victor Hugo, parce que très très souvent, chez des très grands écrivains, on voit que le mot prend forme ou change de forme, ou à la fois les deux sens à la fois. Si vous voulez, quand il emploie formidable, Hugo, c'est toujours pour quelque chose d'un peu dangereux. C'est un canon qui est formidable. Voilà, c'est jamais.
Il y a le formidable, il y a aussi la dénomination pour la bière, mais je ne sais jamais si c'est un litre, deux, ou c'est très sioux.
Oui.
Bertrand Perrier.
C'est l'immensité, là.
Bertrand Perrier, vous aimez moissonner des mots nouveaux, ça enrichit votre existence, écrivez-vous dans votre livre. En lisant votre livre, j'ai découvert par exemple le mot agélaste, que je ne connaissais pas, agélaste.
Qui ne rit jamais. Personne autour de cette table n'est évidemment agélaste, mais c'est ça qui est extraordinaire aussi dans les mots, c'est que bien souvent, ils vous simplifient la vie, plutôt de dire qui ne rit jamais, utiliser plusieurs mots, vous avez à votre disposition le mot agélaste.
C'est un mot chrétien, agélaste.
Absolument.
C'est l'interdiction du rire. Rire étant diabolique, et Jésus a-t-il ri?
Mais oui, on ne rit point, et donc c'est vrai que souvent en réalité, c'est ça qui m'avait motivé pour écrire ce livre, c'est l'idée que ce mot existe confusément quelque part, et il ne vient pas, c'est pour ça que j'ai appelé ça sur le bout de la langue, au-delà du sens du mot langue, mais de la polysémie, mais on l'a sur le bout de la langue, et le bonheur de le trouver enfin pour exprimer au mieux sa pensée.
Bonheur de redonner vie à des mots un peu désuets, un peu oubliés, je pense au mot alacrité, par exemple.
Oui, bien sûr.
Qui veut dire vivacité et enjouement. Ou un autre mot, je vais essayer de redonner vie à ce mot dans cette émission, c'est assuétude, qui veut dire addiction. Et c'est plus joli, peut-être, assuétude qu'addiction. Vous considérez comme un écologiste des mots, Bertrand Perrier, Alain Rey.
Oui, mais Alain Rey le disait, il y a des mots qui sont en voie de disparition parce qu'on ne les utilise plus, de la même façon que des espèces sont en voie de disparition parce qu'on les chasse ou qu'on ne les protège pas suffisamment. Je crois qu'il faut justement, dans les mots, il n'y a qu'une seule façon de les faire vivre, c'est de les prononcer et de les utiliser. Et donc, quel dommage de se priver de ce patrimoine, je vais encore employer un gros mot, pour les mots, les noms propres, onomastique qui est le patrimoine aussi des noms propres.
Tiens, Daniel Percheron, un mot que vous avez peut-être envie d'exhumer. Au lieu de dire « je suis nul », essayons de dire « je suis piètre ».
Piètre.
Piètre, c'est magnifique, ouais. Piètre.
Mais là, non, parce que moi, maintenant, j'utilise souvent « zéro », et je sais pas, ça peut... c'est parce que « nul », c'est un peu usé.
Non, mais dans votre livre, vous avez un ami qui, un jour, vous jouez au foot, je crois, oui. Et qui vous dit, il dit « j'ai été piètre ».
Non, que je suis piètre. Oui. Mais bah, c'est un souvenir d'enfant. Il avait du mal à bien chouser dans le ballon. Et il n'arrêtait pas de dire, et ça m'avait... Il me faisait rire, parce que c'était son mot, quoi.
Mais piètre, on l'emploie, mais on le colle. En fait, Alain Rey a raison, c'est-à-dire ça marche mieux quand on le colle. Oui. C'est un piètre footballeur, voilà, c'est un piètre écrivain, c'est un piètre danseur. Je peux dire mon mot,
Allez-y.
Non, mais parce que moi, mon mot, je le trouve intéressant, parce qu'en fait, lui est très précis et je le trouve très gourmand, mais en fait, on ne sait pas exactement ce que ça qualifie. Mmh. En fait, et c'est même le but de ce mot. C'est un bitonio. Oui, alors le bitonio, moi j'adore ce mot, et en même temps, ce que j'adore dans ce mot, c'est que justement, par principe, ça qualifie plein de trucs. Ouais, c'est-à-dire le machin qui traîne, le petit bout d'aluminium, la pièce Ikea qui rentre nulle part. Bah, c'est un bitonio.
Je suis navré, mais dans bitonio, il y a bit. Non
oui, non, exact.
Et, mais soyez pas navré pour autant.
Bit avec deux T, parce que c'est une bit d'amarrage.
Non, mais ça vient d'où?
Alors, je crois que c'est
de l'argot.
Ça fait partie de ces mots d'origine dites obscures, mais ça veut dire simplement.
Dites
oui, parce qu'on se protège un petit peu quand les étymologies sont étranges. Oui, c'est un mot populaire. Donc les mots populaires, ils arrivent par voie orale. Et tout ce qui ne passe pas par la voie écrite est beaucoup plus difficile à reconstituer dans le passé que ce qui est écrit. Mm-hmm. Parce que dans l'écrit, on a évidemment la marque de la langue d'origine. Ça a été comme ça que le français s'est construit, avec des emprunts gigantesques aux Grecs à travers le latin, parce que les latins parlaient grec, comme on l'a trop oublié. Quand César se fait assassiner, il n'a pas dit « et tu brute », comme on l'a cru, c'est qui est du latin. Il l'a dit en grec. Mm-hmm. C'est très étonnant. Donc, dans une situation où on ne réfléchit pas beaucoup.
Oui. Hein. Allez, dites-nous quels sont les mots qui vous émerveillent, les mots qui vous mettent l'eau à la bouche, qui provoquent 1000 images et qui convoquent autant de souvenirs. 01 45 24 7000. Interpréter la peur des mots.
France Inter. Grand bien vous fasse.
Ali Rebbi.
11h moins le quart, plaisir des mots ce matin. Quels sont vos mots préférés? 01 45 24 7000.
5, 4, 3, 2, 1. Papa est pompier à Paray Vieille Poste.
Top, c'est parti.
Une voyelle. Une autre.
O.
Une autre.
E.
Une consonne.
B.
Une consonne.
G.
Une voyelle.
E.
Questionnaire, Fabrice, pour terminer, du siècle vous. Votre mot préféré?
C'est vraiment un seul mot, oui, hein, vous me limitez à un mot total.
Oui, oui. Non, non, mais vous faites vite, hein.
Oui, je vais très très vite. Croquis.
Vas-tu vraiment con?
Tu sais que ça te va mal de dire des mots vulgaires?
François Giroux.
Pour sa sonorité tubéreuse, pour son sens tendresse.
Trou du cul, putain, merde.
Votre mot préféré, Jean-Luc Godard?
Schuxmousse.
Pardon?
Saloperie, bordel. Alors, tu trouves que ça me va toujours mal?
Mon mot préféré, je crois que c'est harmonie.
Top, c'est terminé. Monsieur, vous avez un mot de combien de lettres?
Deux lettres.
Deux lettres seulement?
C'est tout.
Voulez-vous le composer? Me, me.
L'être parlant, c'est comme parce qu'il est parlant qu'il est être. Puisqu'il n'y a d'être que dans le langage.
Medley signé Stéphanie Texier. Et nous recevons une tonne de messages et de courriels. Brigitte nous dit mes mots préférés, un peu désuets, saperlipopette, fifrelin, gabji, enamouré, enchanteresse. Sophie, pour ma part, j'ai toujours adoré le mot biscuit pour sa sonorité et tout le réconfort qu'il apporte. Flo, j'aime utiliser scrogneugneux quand je suis en colère, sa désuétude et ses sonorités étonnent autour de moi. Il me calme aussi car je trouve ce mot amusant. Eric aime le mot sérendipité, sorte de hasard heureux. Yves Bilvezé, Cox. Pardon, Alain Ray.
Sérendipité, c'est un anglicisme. Oui. Ça vient d'une nouvelle d'un auteur anglais à propos d'un prince sérendib. C'est donc en fait de l'arabe ou du persan qui a été utilisé en anglais et qui est revenu en français parce que c'est un concept bien utile.
Ouais. Bertrand Perrier, je rappelle, vous êtes avocat. Dans votre bureau, derrière les codes civils, les codes de commerce, se cache un guide rouge qui vous enchante, c'est le guide Michelin. Et vous vous délectez de tous les mots liés à la nourriture, à la gastronomie. Vous aimez, par exemple, vous arrêter devant un restaurant, pas forcément pour y manger, mais pour lire le menu.
Oui, alors c'est très pratique parce qu'en fait, le guide Michelin a la même couleur que les codes. Donc, il y a une sorte de camouflage là-dedans. Et ils sont rouges et donc les clients ne peuvent pas faire la différence entre le guide Michelin et le code civil. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me fascine dans le langage de la cuisine, qui est une fascination bien française. Mais vous avez à la fois, bien sûr, des produits, mais vous avez des façons de le cuire. Une poularde en vessie, c'est quand même magnifique. Sur son lit 2, alors on a l'impression que c'est son lit. Alors le cabillaud procède les épinards dans lesquels il baigne. Enfin, c'est absolument formidable. Vous avez après, vous avez aussi la novlangue de la cuisine. Alors, tout est revisité. Moi, je visite pas ceux qui revisitent.
La signature.
Alors, évidemment, c'est terrible. Et puis, vous avez les beaux mots matelote, brunoise, tout ce qui fait la richesse de la cuisine, parce que c'est d'abord un plaisir. En fait, ce que je trouve formidable dans les cartes de restaurant, c'est que c'est d'abord évocateur. Souvent, vous passez devant un magasin, il affiche ce qu'il vend. Là, évidemment, il n'affiche pas ce qu'il vend, le cuisinier, et donc il est simplement réduit à vous exciter les papilles simplement par les mots qu'il emploie, soit très précis, un mode de cuisson, ça, soit pas du tout, c'est-à-dire l'œuf, le bœuf, la dorade, parce que toute autre chose gâcherait si on expliquait, parce que le produit est d'une telle noblesse qu'il se suffit à lui-même.
Et vous aimez le vocabulaire des recettes, précision de la langue gourmande, on ne cuit pas, on rôtit. On mijote, on frit, on saisit, on fait un aller-retour, on croûte, on rissole, on fricasse.
On poêle, c'est pas avec une poêle.
On poêle.
C'est
pas avec une poêle, effectivement. Richesse du vocabulaire gourmand.
Oui, parce que il y a évidemment, et Alain Ray le disait, le dictionnaire de l'étymologie qui est évidemment magnifique, mais moi, j'adore très particulièrement aussi les dictionnaires des synonymes. Mmh. Parce que précisément, ce ne sont pas des synonymes, ça ne disent pas la même chose exactement. Il y a toujours une petite variation. Et c'est ça qui est très beau, c'est croûter, eh bien, c'est juste saisir de chaque côté une pièce de viande avant de la cuire. Eh bien, c'est pas tout à fait pareil. Et j'aime cette précision du langage.
Alain Rey, autour d'une table, on se nourrit de mets, évidemment, mais également de mots liés à la nourriture. On aime, en France, lier les deux, festin des mets et festin des mots.
Oui, il y a même des festivals qui associent la gastronomie et la littérature, et d'autres le vin et les mots. J'ai été invité près d'Angers, dans un endroit où il y a d'excellents vins blancs. Et c'était à la fois littéraire et viticole. C'est très, très passionnant.
Et enivrant.
Enivrant. Ah, j'ai commis un livre qui s'appelle « Pourvu qu'on ait l'ivresse », en hommage à Musset, et qui est un livre où il ne s'agit pas du tout d'ivrognerie, mais où il s'agit d'ivresse poétique, ivresse scientifique, enfin dans tous les domaines. Et on peut être ivre de mots, ça c'est
Daniel Percheron, je rappelle que vous avez publié Bruit de langue, dans les bistrots, plaisir des noms de mélanges, plus ou moins alcoolisés.
Oui, plus ou moins alcoolisés. Mais là, il y a vraiment un dictionnaire sur la question, c'est puissant. Mm. Et il y a des choses, on sait pas trop, avec la bière, tout vient, je veux dire.
Un guillemette odicino.
Mais comment ça, un guillemette odicino? Non, j'étais en train d'essayer de me souvenir des noms marrants comme le perroquet, tous ces trucs-là. Un Monaco, pourquoi un Monaco? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, ça a un rapport avec la principauté?
Bah oui, parce que c'est rouge et blanc, en fait. C'est du cassis avec de la bière.
Mais il y en avait un. Ah bah mince, alors j'en ai pas. Qu'est-ce que je suis quiche, alors?
Il y en avait un, je ne sais pas si c'était inventé, c'était un Potemkin. Alors je ne sais plus ce qu'on y mettait dedans. Mais alors, je ne sais pas, c'était peut-être un peu farfelu. Quoi.
Alors, j'aimerais qu'on s'arrête quand même sur les mots d'amour. Les nouvelles technologies ont donné naissance aux SMS qui permettent de s'envoyer des mots d'amour, de les recevoir à des moments impromptus. Vous en recevez peut-être en ce moment, là, autour de la table, des mots d'amour pendant que vous devisez. Mots d'amour que l'on peut également laisser sur un post-it accroché au frigo ou sur une page de papier laissée sur la table de la cuisine. Bertrand Perrier.
Oui, bien sûr. C'est très beau de se dire l'amour, c'est ce qui fait l'humanité. Faire l'amour, c'est à la portée des animaux. En fait, ce qui fait l'homme, c'est de se dire l'amour, de se dédier. Et évitons aussi les noms de basse-cour, mon poulet. Enfin, c'est monstrueux.
Ça a son charme aussi.
Honnêtement, chacun son charme avicole, hein. Moi, ça ne me regarde pas. Vous avez vos pratiques. Mais quand, je ne sais pas, Musset, vous en parliez tout à l'heure, écrit à Sand, ou que Sand écrit à Flaubert, c'est quand même autre chose que de dire mon troubadour. Ça, c'est quand même magnifique plutôt que mon poulet.
Alain Rey, les mots d'amour, les mots sont l'un des carburants de l'amour?
Oui, je pense, en effet. Alors, il y a les petits mots doux, et puis il y a
les ailes.
Et puis il y a les mots sérieux, les mots qui transmettent la passion. Passion, d'ailleurs, est un mot extrêmement bizarre parce que il est très, très actif, très positif aujourd'hui, alors que c'est totalement c'est la passion du Christ au départ. Hein. Mm-hmm. C'est ce qu'on reçoit, et qu'on n'a pas envie de recevoir. Donc c'est très, très intéressant, justement, de voir ces cheminements. Et dans les mots d'amour, alors il y a tout un vocabulaire. Je sais qu'il y a un petit dictionnaire qui est excellent d'ailleurs sur ces mots qu'on appelle savamment quand on est linguiste, c'est ridicule mais on aime bien être ridicule, les hypocoristiques.
Les
hypocoristiques sont les mots doux. Mmh. C'est justement les poulets,
mon lapin, mon chaton.
Il y a un bestiaire, ça c'est certain.
Bonjour Maxime Perret, bienvenue. Bonjour Maxime Perret. Alors vous êtes l'auteur du DICO, ça s'appelle le DICO, le dictionnaire de la richesse et de la diversité de la langue française aujourd'hui. La particularité de ce dictionnaire, c'est qu'il est adapté du Wiktionnaire, un dictionnaire collaboratif, c'est ça Maxime Perret?
Absolument, un dictionnaire en ligne hébergé par la galaxie Wikipédia, Wikimedia. Mmh. Et donc le Wiktionnaire, c'est la partie dictionnaire de l'encyclopédie que nous avons adaptée dans une version papier aux éditions Garnier. Mmh.
Et comment avez-vous choisi ces mots? Ce sont les 40 000 mots les plus utilisés, c'est ça, en français, que vous avez collationnés?
Oui, Absolument. Notre projet, c'était de faire, c'est indiqué dans le sous-titre d'ailleurs, faire de ce dictionnaire le dictionnaire de la richesse et de la diversité de la langue française d'aujourd'hui. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on a voulu partir d'un dictionnaire en ligne qui nous a permis d'identifier les 40 000 mots les plus utilisés et les plus consultés, en tout cas sur leur plateforme, au cours de l'année 2018.
Et qu'apporte le dico par rapport au petit Larousse ou au petit Robert? Quel est le...
Eh bien, en fait, les mots qui sont à l'intérieur du dictionnaire reflètent un usage réel. Mmh. Et parce qu'il a été réalisé à partir de données statistiques de gens qui s'interrogent sur des mots, qui en cherchent le sens, qui en cherchent l'orthographe. Et donc, à partir de ces données statistiques, on a pu identifier des mots qui relèvent d'un besoin. Mmh. Et donc, en utilisant, en adoptant une perspective qui était évidemment pas normative mais descriptive, on a pu rendre compte en 40 000 mots à peu près, ce qui fait le vocabulaire d'usage classique en 2019. Merci. En France.
Merci beaucoup Maxime Perret, le dico, c'est publié aux éditions Garnier. Alors on peut ce week-end, Guillemette Odissino, jouer entre amis ou en famille, un jeu simple et très drôle, on y a joué il y a 15 jours au café, avec l'équipe.
Enfin, le jeu, on n'avait pas les petits papiers.
Hein. Le jeu du dictionnaire, le jeu du dictionnaire, expliquez-nous.
C'est mon jeu préféré. Alors, écoutez-moi bien, parce que de toute façon il va flotter tout le week-end, il neige, enfin c'est n'importe quoi, donc allumez des feux de cheminée, jouez au jeu dico. Alors, vous prenez un dictionnaire aussi magnifique et complet que celui d'Alain Rey, par exemple, et le maître de jeu choisit dans ce dictionnaire un mot vraiment inusité, que lui-même ignore totalement et dont il se doute que les autres joueurs ignorent également le sens. Il le marque sur un petit bout de papier et il le montre aux autres, quand même, ça à tous les participants. Et ces participants se disent, mince, qu'est-ce que ça peut être? Tous les participants vont inventer une définition à ce mot. Alors, soyez imaginatifs, ça peut donner des choses extraordinaires, autant ça peut devenir, je sais pas moi, un bitonio dans les bénisteries, ça peut devenir un arbre séculaire, ça peut devenir n'importe quoi, vous allez vous éclater. Vous faites bien la définition, que ça ressemble bien à une définition d'ico. Ouais. Vous repliez le petit papier, évidemment le maître de jeu, lui, il a écrit la vraie définition sur un petit papier aussi. Vous mélangez tous ces petits papiers, la vraie définition et toutes les fausses dans un chapeau, une coupelle. Et après, le maître de jeu lit toutes les définitions. Et là, c'est la deuxième partie du jeu. C'est-à-dire que vous allez devoir non seulement essayer de trouver la vraie, mais s'il y a plein de votes, par exemple, pour la définition de Solange, qui était complètement inventée, mais qui était géniale, elle gagne aussi des points. Donc, vous gagnez des points en trouvant la vraie, vous gagnez des points en inventant des génialement fausses.
On va jouer au jeu du dictionnaire ce week-end, Daniel Percheron.
Je voulais juste raconter une mésaventure, parce que j'avais été tout content d'avoir trouvé, moi, le mot surlet, qui veut dire l'entaille qu'on fait au pain pour récolter la résine. Et en fait, tous les participants ont mis quelque chose qui avait à voir avec la couture. Ils ont tous deviné lequel c'était sur le temps que c'était un sale coup. Quoi.
Alain Rey, vous allez jouer au jeu du dictionnaire ce week-end ou c'est repos?
Non,
vous
pas ce week-end. J'y joue toute la journée. Alors.
Et on peut également jouer avec un jeu de société édité par Le Robert, le grand jeu de la langue française. Merci beaucoup Alain Rey. La nouvelle édition en poche du dictionnaire historique de la langue française vient de sortir. C'est un joli cadeau de fin d'année, plaisant et érudit. Merci Daniel Percheron. Le bruit des mots et publié aux éditions Le Passage. Merci Bertrand Perrier. Merci. Sur le bout de la langue, le plaisir du mot juste, c'est chez Lattès. Merci aux standardistes de France Inter et à la programmation musicale de Muriel Pérez. Lundi, on s'intéresse aux médecines dites complémentaires et alternatives qui peuvent éveiller des soupçons, générer des craintes et provoquer des tensions. Êtes-vous pour ou contre ces médecines complémentaires et alternatives? Comment les évaluer? Standard ouvert dès 9h au 01 45 24 7000.